Chapitre 12e. Norwood et la Suisse. Le principal événement qui marqua notre vie de Norwood fut la naissance de notre fils Kingsley, qui devait vivre le temps de jouer virilement ce rôle dans la Grande Guerre et mourir peu après le retour de la paix. Mes occupations ne me laissent guère de loisirs pour mon développement religieux, mais les questions psychiques n'en continuaient pas moins à m'intéresser. De cette époque date mon affiliation à la Société des recherches psychiques, dont je suis aujourd'hui l'un des plus anciens membres. Comme je l'ai montré dans mes lettres de Stark Munro, écrites à la fin de cette période, ma philosophie matérialiste n'était pas de celle qu'on ébranle aisément. Cependant, plus j'allais lisant ce qui s'imprimait sur le psychisme, plus je sentais la force de sa position et la légèreté, le manque de dignité et d'informations scrupuleuses qui caractérisaient ses adversaires. L'aspect religieux de la question ne m'avait pas encore frappé, mais des phénomènes dont témoignaient un Sir William Crookes, un Barrett, un Russell Wallace, un Victor Hugo, un Zöllner, me semblaient d'une autorité sans réplique. « C'est incroyable mais vrai », disait Crookes, et ce mot traduisait au plus juste l'état naissant de mes croyances. Je recevais l'impulsion hebdomadaire du journal Psychic Light, où j'affirme qu'il se dépensait alors et qu'il continue de se dépenser autant d'intelligence qu'en n'importe quel autre journal des îles britanniques. Je garde, des années qui s'écoulèrent entre 1880 et 1893, l'agréable souvenir de mon introduction comme écrivain en passe de se qualifier dans la vie littéraire de Londres. C'est une chose extraordinaire qu'à cette époque, la presse londonienne gémit à l'envi sur la fin de la littérature anglaise. À l'en croire, il ne se levait plus d'écrivains nouveaux pour prendre la place de ceux qui partaient. En réalité, il s'en levait, d'une seule volée, une troupe des plus étonnantes, qui peut-être ne présentait ni à Dickens ni à Thackeray, mais était toutefois si nombreuse et d'un tel mérite moyen qu'à mon avis, elle eût tenu avantageusement son rang à toute période de notre histoire littéraire. C'est à peu près de 1888 à 1893 que Rudyard Kipling, James Stephens Phillips, Watson, Grant Allen, Wells, Barry, Bernard Shaw, Jones, Pinero, Mary Corelli, Stanley Weyman, Anthony Hope, Walt Kane et j'en oublie, firent avec éclat leurs premières armes. Chez les tenants de la vieille école, la décadence était certaine, le succès des nouveaux venus ne rencontra donc pas de sérieuses oppositions. Wilkie Collins, Trollope, George Eliot, Charles Reed avaient passé. Je nourris à l'égard de ce dernier une admiration très vive. Reed fut vraiment un grand novateur, en même temps qu'un écrivain très dramatique. Le premier, il introduisit chez nous le réalisme et fonda ses écrits sur une documentation minutieuse. Il fut le père littéraire de Zola. George Eliot n'a jamais eu beaucoup d'action sur moi, j'aimais mieux des effets obtenus par des moyens moins lâches. En revanche, je considère Trollope comme un écrivain fort original, bien qu'il me paraisse procéder de James Austen. Nul ne peut, en littérature, se flatter d'une originalité absolue, on n'est jamais qu'un rameau d'un vieil arbre. Parmi les hommes de lettres que je rencontrais à l'époque et dont le souvenir m'est resté le plus persistant, il y a tous ceux du groupe constitué par The Idler, le nouveau magazine créé par Jérôme K. Jérôme. Celui-ci venait alors de forcer la renommée avec son livre d'un esprit magnifique, « Trois hommes dans un bateau ». Tout ce que la jeunesse comporte d'exubérance, de joie de vivre éclate dans cet ouvrage. Aujourd'hui encore, si d'aventure j'ai le temps d'être triste, ce qui n'est pas souvent, je n'ai qu'à le reprendre pour que mon rire dissipe les ombres. Comme la plupart des humoristes, Jérôme avait dans le caractère un côté grave. Ceux-là le savent qui ont lu son troisième étage au fond. Mais le sérieux de ses idées faisait de lui, en matière politique, une tête chaude, et l'inclinait à l'intolérance, ce qui lui aliéna quelques amis. Il avait pour associé à la direction de The Idler le bouillant Robert Barr, américain matiné d'anglais, ou plutôt d'écossais, et qui cachait, sous la violence des manières, sous le luxe des épithètes vigoureuses, la meilleure des natures. Barr était, dans la conversation, l'un des plus agréables conteurs que j'ai connus, et il ne me semble pas avoir donné toute sa mesure dans son œuvre. George Bergin, sorte d'étrange et doux personnage à la Dickens, dirigeait en second le magazine. Barry, Zhang Will, bien d'autres jeunes auteurs en train de se révéler lui apportaient leurs contributions et se rencontraient à ses dîners périodiques. Je n'étais pas infidèle au Strand, mais certains de mes travaux sortaient de son cadre et c'est par eux que je nouais des relations avec The Idler. De mon séjour à Norwood, deux faits, qui n'ont entre eux aucun rapport, me viennent encore à la mémoire. L'un est qu'au moment où nous nous crûmes menacés d'une guerre avec la France, je sollicitais et obtins du Central News ma désignation comme correspondant de guerre dans la Méditerranée, que je supposais devoir être le principal centre d'activité et d'intérêt. J'ai été prêt à partir lorsque, fort heureusement, la crise se dénoua. Le second fait n'est autre que ma première tentative théâtrale. J'avais écrit une nouvelle intitulée Un vagabond de 1815, qui me semblait la peinture émouvante d'un type de vieux soldat. J'avais les yeux mouillés en l'écrivant, ce qui est la meilleure des conditions pour mouiller ceux des autres. J'en tirai un acte, et j'eus l'audace de l'envoyer à Henry Irving, dont j'admirais avec ferveur le génie depuis ses jours lointains d'Édimbourg, où, si souvent, j'allais pour trois pence le voir du haut du poulailler, dans Hamlet ou dans le courrier de Lyon. Et mon plaisir fut extrême à recevoir de Bram Stoker, son secrétaire, une aimable lettre où il m'offrait 1000 livres pour mes droits d'auteur. Il fit là, du reste, un excellent marché, car je n'exagère pas en disant que le caporal Gregory Brewster devint un des rôles permanents de son répertoire, avec cet avantage énorme que plus le grand comédien avança en âge, plus il le joua au naturel. La salle entière riait et sanglotait, tout comme j'avais fait moi-même en écrivant la pièce. Plusieurs critiques se hasardèrent à prétendre que le succès revenait uniquement aux comédiens, que l'œuvre était trop insignifiante pour avoir rien à y voir. N'empêche que la dernière fois où j'assistais à sa représentation, elle avait pour interprète un vrai caporal appartenant à un camp militaire, pour théâtre une humble salle de village, et qu'elle produisait sur le public le même effet qu'avait produit Irving au Lycéum. Il se peut donc, après tout, que l'œuvre y fût pour quelque chose, d'autant que chacun des effets s'y trouvait indiqué. Je dois ajouter qu'avec sa libéralité ordinaire dans les questions d'argent, Irving, bien qu'il eût acquis une fois pour toutes mes droits d'auteur, m'envoya pour chaque représentation une guinée à titre de droit supplémentaire. Son fils, après lui, reprit le rôle, et à mon sens le joua encore mieux. Je me rappelle comme il rougit de plaisir quand je le lui dis, et comme il me prit la main. Pour un homme de sa valeur, ce devait être une épreuve bien pénible que de se sentir continuellement mesuré à la taille géante du talent de son père, dont il était d'ailleurs tout le portrait physique. Sa mort prématurée fut une perte cruelle pour le théâtre, et pareillement celle de son frère Lawrence, noyé avec sa femme dans le grand fleuve canadien du même nom. J'en viens au triste événement qui là-dessus enténébra et dévia notre existence familiale. J'ai dit que j'étais allé faire un tour en Suisse avec ma femme. J'ignore si elle exigea trop de ses forces dans nos courses, ou si elle rencontra quelques mauvais microbes dans une chambre d'hôtel. Toujours est-il qu'au bout de quelques semaines, elle toussait et se plaignait de point de côté. Quoique ne soupçonnant rien de sérieux, je fis chercher un médecin du voisinage. Ma surprise égala mon inquiétude lorsqu'en quittant la malade, il me dit qu'elle avait les poumons gravement pris, qu'elle donnait tous les signes d'une consomption rapide, et que, étant donné ses antécédents, son hérédité, le cas était de ceux qui ne permettent guère d'espérer une guérison durable. Avec deux enfants, dont l'un n'avait qu'un an et l'autre 4, je me voyais dans une situation difficile. Sir Douglas Powell, que j'appelais en consultation, ayant confirmé le diagnostic de son confrère, je pris les mesures catégoriques qui s'imposaient. Nous abandonnâmes notre logis et vendîmes notre mobilier neuf pour aller nous installer à Davos, dans les Alpes des Grisons, où il me semblait que nous aurions les meilleures chances de tuer le maudit microbe qui minait à vue d'œil sa victime. Le résultat obtenu fut des plus favorables. Quand je pense qu'il s'agissait de ce qu'on nommait phtisie galopante, que les docteurs n'accordaient ma femme qu'un délai de quelques mois, et que cependant nous reculâmes l'issue fatale de 1893 à 1906, je me dis que les mesures que nous avions prises étaient sages. La malade menait d'ailleurs une existence heureuse, dans le cadre obligé d'un beau paysage. Elle souffrait rarement. Elle était soutenue par l'optimisme particulier à ce genre de maladie, d'autant qu'il s'accordait chez elle avec un caractère tranquille et satisfait de peu. Comme les distractions n'abondaient pas à Davos et que nous y vivions entre des sapins et des neiges, je pus à la fois travailler beaucoup et me livrer avec une certaine énergie à ces sports d'hiver pour lesquels l'endroit est réputé. C'est alors que j'entrepris la série des aventures du brigadier Gérard, principalement inspiré de ce grand livre qui s'appelle « Les mémoires du général Marbot ». Il me coûta de longues recherches sur l'époque napoléonienne, et j'ai lieu de croire à la sûreté de mon information militaire, car le célèbre correspondant de guerre Archibald Forbes, lui-même très instruit de ces questions, en écrivit une lettre de compliments chaleureux. Nous eûmes, dès avant la fin de l'hiver, l'assurance que les ravages de la maladie étaient enrayés. Mais n'osant pas encore retourner en Angleterre par crainte d'une rechute, nous nous transportâmes à Maloya, qui est un centre sanitaire au fond de l'Engadine, et nous nous efforçâmes d'y consolider nos gains, ce à quoi nous réussîmes en dépit de quelques accidents passagers. Ma sœur Lottie, enfin libérée de la tâche qu'elle avait si courageusement assumée, était venue nous rejoindre. Avant elle, notre sœur cadette avait déjà quitté le Portugal pour nous rejoindre à Norwood, où elle avait rencontré et finalement épousé le romancier E.W. Hornung. La présence de Lottie et l'amélioration survenue dans l'état de la malade, amélioration si sensible qu'elle excluait toute probabilité de crise soudaine, me rendirent ma liberté d'action. Avant la catastrophe, j'avais donné quelques conférences en Angleterre. Ce genre d'exercice, avec le mouvement, l'agitation qu'il comporte, ne me déplaisait pas. On me pressait d'aller me faire entendre en Amérique. À la fin de l'automne de 1894, je m'y décidai. Mon frère Heinz, qui avait partagé dans le début mon séjour à Southsea et qui, après être passé par l'école publique de Richmond, était entré à l'académie de Woolwich, venait d'en sortir comme officier subalterne. Je pensais qu'un changement lui ferait du bien, et sentant le besoin d'un compagnon, je lui demandai de venir avec moi aux États-Unis. Nous fîmes la traversée sur le malheureux paquebot allemand Elbe, qui allait, peu après, sombrer dans la mer du Nord, à la suite d'une collision avec un bateau charbonnier. J'y observais déjà cette haine irrationnelle des Anglais qui devait, en 20 ans, amener des conséquences si terribles, jusque y compris la destruction de l'Empire germanique. Il me souvient d'un jour de fête à bord où le salon du navire était profusément décoré de drapeaux allemands et américains, sans qu'il s'y mêlât un seul drapeau anglais, bien que les passagers anglais fussent en proportion notable. Heinz et moi, en cherchant à droite et à gauche, réussîmes à nous procurer un Union Jack que nous piquâmes dans la mâture, où, par son isolement, il signifia aux yeux notre protestation. J'avais pour impresario en Amérique le major Pond, homme bizarre, et qui semblait l'incarnation même de son pays, énorme, déjà grandé, jambes et bras à la débandade, barbiche de bouc, voix nasillarde. Il avait pris part à la guerre de sécession et joué son rôle en son temps dans tous les événements de l'histoire d'Amérique. Brave homme au demeurant. Je formais avec lui une amitié qui ne s'est jamais démentie. Il vint nous chercher au débarqué et nous conduisit à un hôtel voisin de l'Aldin Club, petit cercle littéraire où mon frère et moi prîmes nos repas. Je devais, plus tard, revenir visiter cet étonnant et troublant pays d'Amérique, dans des conditions où je m'appartiendrais mieux. Pour l'instant, j'avais fort à faire et peu de temps à perdre en observation. Pond m'avait imposé un assez rude programme, mais nous étions convenus que je serais de retour à Davos pour passer la Noël avec ma femme, en sorte qu'il y avait un terme à ma servitude. Je donnai ma première conférence à l'église baptiste. C'est un lieu fréquenté du monde élégant, où Pond lançait d'habitude ses nouveaux conférenciers. J'allais faire mon entrée dans la salle, quand je me sentis tout à coup chatouillé à une oreille. Je levai la main et m'aperçus que mon col de chemise était défait, que ma cravate pendait, que le bouton, cause de tout le mal, avait disparu de la boutonnière. Alors, s'arrêtant au bord de l'estrade, Pond enleva le bouton de son propre col qu'il me passa. Je le mis en place et m'avançai pendant que mon impresario s'en allait chercher pour lui-même un bouton de rechange. C'est une chose curieuse, où l'on a tort de voir une simple coïncidence, que l'on soit si souvent mis en garde à la dernière minute contre une apparition ridicule devant le public. Mes conférences marchèrent très bien. L'auditoire ne me ménagea pas les applaudissements. J'ai, sur l'art conférencier, ma théorie personnelle. J'estime qu'il doit essentiellement se différencier de l'art du comédien, et qu'une conférence doit être aussi naturelle, aussi facile à écouter que possible. Je débitais les miennes comme dans mon enfance je faisais la lecture à ma mère. Je donnais des extraits de récents ouvrages anglais, y compris les miens. Je mêlais le plaisir au sévère. Bref, je sus pendant une heure tenir mon public en haleine. Quelques journaux prétendirent que je n'avais rien d'un conférencier. Peut-être voulaient-ils dire que je manquais de jeu. N'empêche que d'autres adoptèrent ma méthode. En tout cas, je reçus un excellent accueil, et Paul me dit que toute la soirée, il avait eu le sourire. Il trouva pour moi, sans aucune peine, autant d'engagement que j'en pouvais tenir dans les limites du temps que nous nous étions fixés. Je visitais les villes de quelque importance entre Boston, au nord, et Washington, au sud. Chicago et Milwaukee bornèrent à l'ouest mes voyages. Il m'arriva, quelque diligence que je fisse, de me trouver certains jours singulièrement pressé par l'heure pour tenir mes engagements. Une fois, par exemple, je pris la parole dans la journée au Dallas Theater de New York, dans la soirée au Princeton College, distant de 100 miles, et dans l'après-midi du lendemain à Philadelphie. On ne s'étonnera pas si je finis par ressentir une extrême fatigue, sans compter que la charmante mais exubérante hospitalité américaine, en ces jours d'avant la Prohibition, avait de quoi éprouver les forces d'un homme, et quand il était tenu par sa besogne, constituait pour lui un danger. Je pus cependant m'offrir un petit congé pour aller rendre visite à Rudyard Kipling. Mais à part ces quelques jours de détente, je me surmenais sans répit. J'étais si fatigué à mon retour que de New York à Liverpool, je ne quittais presque pas ma couchette. Mes souvenirs de cette période ne sont que les souvenirs confus d'un homme exténué. Je me rappelle qu'au Daly Theatre, au moment de franchir l'entrée de la scène, je trébuchais contre le bois du seuil, ce qui eut pour résultat de me faire descendre le plateau plus vite que je ne l'aurais voulu, en semant autour de moi mes papiers et mes livres. Des éclats de rire s'élevèrent, on eût volontiers crié bis. Notre séjour fut gâté par une de ces crises d'anglophobie qui sévissent de temps en temps aux États-Unis. Elles viennent du fond même de l'histoire américaine. Pas de grief que n'exagère et n'entretienne là-bas l'hostilité de la presse irlandaise et des politiciens. Le voyageur anglais n'y voit rien que d'absurde et de méprisable. Il sait en effet à quel point c'est unilatéral et comme, par exemple, le drapeau américain est le bienvenu dans toutes les manifestations britanniques. C'est ce qu'ignorait l'Américain sédentaire. Sans doute imaginait-il que son pays était aussi malmené dans le nôtre que le nôtre dans le sien. La course de yacht de Durabhan avait encore aigri cette animosité chronique, qui était, lors de notre visite, particulièrement active. Un banquet que nous offrit un club de Détroit, et où les vins coulaient librement, finit par un discours d'une violence agressive contre l'Empire britannique. Mon frère et moi, ainsi qu'un ou deux Canadiens présents, ressentîmes naturellement l'algarade. Sans doute leur avancée en était-elle pour une bonne part responsable. Mais je demandai la permission d'y répondre, et quelques-uns de ceux qui m'écoutèrent m'ont affirmé n'avoir jamais oublié ce que je dis. Je dis notamment, « Vous, Américains, vous avez jusqu'ici vécu derrière vos palissades. Vous ne savez rien du dehors. Mais aujourd'hui que votre territoire est surpeuplé, vous allez devoir davantage vous mêler aux autres. Vous vous apercevrez alors qu'il n'y a qu'un pays capable de comprendre vos actes et vos aspirations ou de leur accorder la moindre sympathie. C'est le pays maternel que vous vous plaisez à insulter. Il est un empire. Vous aussi, bientôt, vous serez un empire. Alors vous vous entendrez l'un l'autre. Vous concevrez que vous n'avez qu'un ami au monde. » Deux ou trois ans plus tard, vint la guerre de Cuba, l'épisode de la baie de Manille, où le commandement britannique lia partie avec les Américains contre les Allemands, et plusieurs autres incidents qui attestèrent la justesse de mes paroles. Un écrivain de moyennes ressources ne peut que perdre, financièrement, à une tournée de conférences en Amérique, à moins de beaucoup prolonger son séjour et de faire un effort très pénible. Je veux dire par là, non pas qu'il doit y être de sa poche, mais simplement qu'il gagnerait davantage à ne pas sortir du cadre de ses travaux. Pour ce qui est de moi, toutes nos dépenses payées, je me trouvais réaliser un gain d'environ 1000 livres. La façon dont j'en disposais fournit un exemple frappant du pouvoir de la prière. La chose a été racontée par le célèbre éditeur M.S.S. McClure. Je ne fais donc pas scrupule de le raconter à mon tour. M. McClure lançait en ce temps-là son magazine. Il a dit comment, arrivé à son dernier cent, il se laissa tomber à genoux sur le parquet de son bureau pour implorer l'aide divine. Or, ce même jour, un Anglais qui n'était pour lui qu'une simple connaissance entra dans son bureau. « McClure, dit-il, je crois en vous et en l'avenir de votre magazine. » Après quoi, il déposa 1000 livres sur sa table. Un critique observera peut-être qu'aventurer de la sorte 1000 livres ne marquait pas moins d'ignorance que de confiance. Depuis longtemps, je sentais que les desseins de la Providence étaient favorables à McClure, sans voir du reste en quoi cela pouvait me concerner. Et je dois admettre qu'en définitive, après maintes vicissitudes, l'affaire tourna bien pour lui comme pour moi. Au bout de 20 ans, je pus vendre mon paquet d'actions avec un honnête bénéfice. Mais lorsque je retournais à Davos, tous mes profits d'Amérique étaient sous clé. Je ne rapportais rien de tangible. La saison de Davos battait son plein. La santé de ma femme se maintenait. C'est sur ces entrefaites, dans les premiers mois de 1895, que j'introduisis et vulgarisai, comme je le dirais ailleurs, le sport du ski en Suisse. Nous nous attardâmes à Davos tellement que j'y organisai un jeu de golf, contrarié à son début par la singulière manie qu'avaient les Bâches de brouter les drapeaux. De Davos, nous passâmes enfin à Caux, sur le lac de Genève, où pendant plusieurs mois je travaillais d'arrache-pied. L'automne venu, laissant à Caux ma femme et ma sœur, j'allais faire un tour en Angleterre. Et là-dessus, de nouveaux événements modifièrent une fois de plus le cours de notre vie.